tous, bienvenue sur RDWA, on écoute sur 107.5 FM et sur www.rdwa.fr. Bienvenue dans cette nouvelle édition d'Histoire et de Contes que je pique à Lily le temps d'un stage passage. Nous accueillons aujourd'hui Virginie Komanieski, conteuse et auteure basée dans la Drôme, à Dieulfi, qui est actuellement en résidence de création au Théâtre de Die pour fignoler, nous a-t-elle dit, sa dernière création, Rouge Mémère, une belle adaptation du Petit Chaperon Rouge, qui chahute le conte entre de multiples versions originelles, y mêlant l'histoire de Mémère, sa grand-mère ukrainienne et toute sa smala. Nous accueillons également, avec Virginie, en invité surprise, Ghislain Papin, conteur, auteur et metteur en scène, directeur, fondateur de l'association Le Coq qui Disserte, qui organise à Recoubo des soirées contées et accueille des interprètes du conte.
Caractéristique par rapport au terme d'auteur, c'est que j'adore créer à partir des autres, de l'autre et de la rencontre avec les autres. Et des fois, ça peut se faire de façon très physique. C'est pour ça que j'ai souvent travaillé en duo avec des personnes pour créer. Et j'ai aussi beaucoup créé avec des groupes et du coup, créer des pièces, créer des histoires, que ce soit avec des groupes formels, des groupes de théâtre, des groupes de conteurs amateurs, et aussi dans le cadre des écoles. Voilà. Et donc ça, c'est pour le côté auteur. Et puis pour le côté conteur, eh ben voilà, je suis un touche-à-tout du conte. J'aime toutes les histoires, dès l'instant qu'elles me procurent une émotion, et que surtout j'ai envie de les transmettre. Voilà. Et ce qui me caractérise, c'est que j'ai un ami à qui je travaille beaucoup et qui m'appelle son conteur éclectique, à défaut d'être électrique, parce que ben, je raconte de tout, mais aussi je peux raconter n'importe où, n'importe comment, n'importe quand et avec n'importe qui.
Mais pas n'importe quoi.
Mais pas n'importe quoi.
Bon, ça me rassure.
Voilà.
Si je devais me caractériser, je dirais que ce qui m'intéresse d'abord dans le conte, c'est que c'est des matières profondes et j'ai cette espèce de tendance à avoir besoin d'aller creuser, défouir, chercher à l'intérieur. Alors à l'intérieur de moi, à l'intérieur des êtres, à l'intérieur des histoires, à l'intérieur à l'intérieur des maisons, de la terre, de tout ce qui est caché, tout ce qui est enfermé, tout ce qui cherche à se dire. Et j'ai l'impression vraiment que mon travail avec le conte, il est d'aller défouir les choses et de prêter ma voix pour que ces choses-là me traversent et qu'elles se révèlent. Voilà. Alors c'est passionnant.
J'ai dit tiens, je vais essayer de raconter des histoires. Et j'ai commencé comme ça, et puis bah, ça m'a pris de plus en plus, et je me suis aperçu que j'avais un énorme plaisir à rentrer dans une histoire et à me laisser porter par elle. Voilà. Et quand je dis laisser porter par elle, c'est justement c'est que avec des mots d'autres qui viennent d'autres, bah, tout d'un coup, j'ai l'impression que je suis là pour essayer de faire. Comme si j'avais une terre dans les mains, et puis je la travaille, et puis ça va devenir une poterie, mais une poterie que je ne vais pas faire cuire, parce qu'après quelqu'un d'autre va pouvoir le prendre, et puis lui aussi le transformer. Voilà, et c'est ce grand plaisir que j'ai rencontré dès l'instant que j'ai commencé à faire ça pour les enfants et pour les parents, et du coup après ben, j'ai continué, et surtout comme j'avais déjà un passé important de metteur en scène et de comédien, il y a des choses qui sont venues se rejoindre pour être encore plus à l'aise, pour pouvoir raconter. Voilà.
Ce qui m'a le plus ému, ce qui m'a accroché définitivement au conte, c'est une sensation vraiment très très particulière dans le moment de raconter, une sensation de m'effacer, de me dilater, de me délayer, de me fondre dans ce que j'étais en train de raconter pour devenir ça, ou vraiment ce truc d'être traversé, ouais. Et la sensation de, je sais pas, une espèce de fusion avec ceux qui écoutent, qui font que je suis plus là en tant que personne, ou plus là en train d'être regardée ou évaluée sur ce que je suis en train de faire, mais dans un, c'est la notion de partage, c'est un partage très fort et très très profond. J'ai un souvenir de conte qui vraiment m'a marquée petite, mais c'est pas là, j'y suis revenue après, mais c'est pas là que ça s'est déclenché. Ça s'est déclenché alors que j'étais instit, je démarrais mon métier d'instit. Et quand j'ai commencé à lire aux enfants en classe, très vite, je me suis dit non, j'ai pas envie de ça. C'est pas une matière qui est faite pour ça. Elle a besoin du corps, elle a besoin de. Et donc j'ai lâché les bouquins et j'ai commencé à raconter aux enfants. Et dans le même temps, on était là où je vivais en train de monter un collectif avec des copains artistes pour programmer des spectacles en milieu rural. Et on a créé un petit lieu qu'on a appelé la petite maison de la culture. Et pour inaugurer le lieu, chacun a proposé un peu ce qu'il avait envie de faire ou ce qu'il aimait faire. Et moi, j'ai dit très bêtement, ben moi, en ce moment, j'aime raconter, je vais raconter. Et après ça, les gens ont commencé à dire, tiens, c'est la conteuse. Ça m'est un peu tombé dessus.
J'ai trouvé quelque chose d'extraordinaire lorsque tu as commencé à parler de ton rapport au conte, je veux dire ça comme ça. Tu as dit, ça me dilate. Et là, j'ai trouvé ça extraordinaire, parce que j'ai eu envie d'en faire mien. Puis après, tu as parlé de fusion. Et je me suis dit que tu étais une conteuse volcanique.
Ouais, c'est ça. C'est la nuit. Une nuit sans lune. On pressent juste les bords d'un lac. Et là, juste à côté du lac, il y a une petite taverne. Si tu t'approches, tu verras un petit peu de buée sur les vitres et puis au-dessus de la porte, une petite pancarte qu'on a accrochée là et sur laquelle on a écrit « Qui a bu, boira ». Et d'ici, jamais sur deux pattes ne repartira. Jim, quand il est arrivé dans la taverne ce soir-là, il a tout de suite compris à l'ambiance qu'il avait quelques verres de retard par rapport aux copains qui étaient là rassemblés. Et puis le patron l'a accueilli tout de suite et il l'a mis dans l'ambiance. « Ah, Jim, oh, t'es chiant à arriver à cette heure-là, Jim. Écoute, ce soir, tu vas pas pouvoir boire ton coup si tu participes pas au concours. Tous les copains qui sont là, ils ont participé. Pour participer au concours, t'as trois possibilités. Soit tu racontes une histoire que tu connais. Ou alors tu chantes une chanson que tu connais. Ou alors tu montes ton cul. Jim, ça lui a fait l'effet d'une douche pas chaude. Il n'était pas préparé à ça, et ça l'a tellement saisi que sur le moment, il n'a pas trouvé le moyen de rattraper la moindre histoire par le souvenir. Chanter. Il n'avait jamais su chanter. Quant à montrer son cul. Oh, Jim, écoute, t'es pas marrant ce soir, maintenant tu sors, t'as un gage. Dehors, tu vas trouver une barque pleine d'eau et puis une petite boîte en métal à côté. T'as qu'à vider l'eau de la barque, puis quand t'auras fini, tu reviens nous voir. On verra bien si t'as trouvé moyen de nous raconter quelque chose. Et Jim est sorti. C'était la nuit. Il a marché à tâtons jusqu'à trouver les bords du lac. La barque pleine d'eau. La petite boîte en métal. Il n'avait rien prévu d'autre ce soir-là, alors il s'est dit tant qu'à faire. Il a écopé. Flutch. 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 Mais le sol autour de la barque était glissant et Jim a glissé. Il est tombé, il s'est cogné contre la barque assommée. Et là, en tombant dans la barque, il a donné juste l'impulsion nécessaire pour permettre à la barque de décoller de la berge et de filer sur les eaux du lac. Quand il s'est réveillé, il était arrivé de l'autre côté du lac. C'était le matin. Un petit matin brumeux, il y avait juste quelques oiseaux tout frigorifiés qui n'arrivaient même pas à chanter. La barque a accosté. Jim est descendu. Et c'est là qu'il a vu ses mains. Ses hanches. Ses seins. Une femme. Il était devenu une femme. Alors Jim est sorti de la barque. Elle a commencé à arpenter les bords du lac. Et la pluie a commencé de tomber, et alors Jim a aperçu un homme qui s'approchait, accompagné d'un chien. Et quand l'homme a été à hauteur de Jim, il l'a regardé et il a dit « Bah alors, petite dame, c'est une drôle d'idée de venir se promener là de ce temps-là. »« C'est que je ne sais pas où aller, » a répondu Jim. « C'est pas grave, » a dit l'homme. « Moi, j'habite juste à côté, il y a moyen de venir, on trouvera de quoi vous sécher et vous changer. « Comment vous vous appelez, donc ?»« Jim ?» C'est pas grave, venez quand même. » Et Jim a suivi l'homme jusque chez lui. Lui, il a allumé un bon feu, il a sorti une serviette et des vêtements secs, et pendant que Jim se changeait, il est allé à la cave chercher une bonne bouteille. Faut que je te dise que dans la cave de cet homme-là, il y avait un de ces vins, délicieux à te rosir les pommettes. Il a débouché la bouteille, versé le vin dans des verres, et tous les deux, ils ont bu, parlé, bu, bu, parlé, bu, parlé, bu. C'était très étonnant. C'était comme s'ils se connaissaient depuis toujours, ces deux-là. Entre eux, ça coulait de source. Ils étaient tellement bien ensemble qu'ils n'ont même pas vu la nuit tomber. Alors, ils ont décidé d'un commun accord que Jim passerait la nuit ici. Et l'homme est allé préparer à manger. Il a débouché moult bouteilles, ils sont passés à table et tous les deux ensemble, ils ont mangé, bu, bu, parlé, bu, bu, parlé, bu. Quand ils ont eu vidé la dernière bouteille, ils ont décidé d'un commun accord que c'était l'heure d'aller se coucher. Alors l'homme a emmené Jim aux étages et il lui a montré sa chambre à elle et elle s'est couchée dans son lit à elle. Et l'homme est allé se coucher dans son lit à lui, dans la chambre juste à côté. Le lendemain matin, quand Jim s'est réveillée, elle a éprouvé quelque chose de très étrange. Elle avait l'impression que cette maison-là, c'était sa maison. Elle avait l'impression qu'elle avait traversé toute cette vie-là juste pour se trouver un jour dans cette maison-là. Elle ne pouvait plus partir. Elle ne pouvait pas partir sans avoir revu l'homme, sans lui avoir parlé. Seulement l'homme était parti chasser, et quand il est rentré, c'était déjà la nuit, alors ils ont décidé d'un commun accord que Jim passerait encore la nuit ici. L'homme a préparé à manger. Il a débouché moult bouteilles, ils sont passés à table, et tous les deux, ils ont mangé, bu, bu, parlé, bu, bu, parlé, bu, bu. Quand ils ont eu vidé la dernière bouteille, ils ont décidé d'un commun accord que Jim... Ils ont décidé d'un commun accord que c'était l'heure d'aller se coucher. Alors ils sont allés se coucher. Jim dans son lit à elle et l'homme dans son lit à lui, dans la chambre juste à côté. Et tous les jours qui ont suivi, ils ont fait exactement comme les jours précédents. Chaque soir, ils se retrouvaient et ensemble, ils buvaient, parlaient, bu, bu, parlaient, bu, bu. Et puis ils allaient se coucher. Jim dans son lit à elle, l'homme dans son lit à lui, Jim dans son lit à elle, l'homme dans son lit à lui, Jim dans son lit à elle, l'homme. Ça a très bien fonctionné entre ces deux-là. Ils ont eu leur premier enfant cette année-là. Et puis un deuxième enfant, l'année d'après. Et puis encore un autre. C'était des beaux enfants. Il n'y avait pas un jour que Jim ne commençait sans avoir d'abord embrassé chacun de ses trois enfants, de les avoir embrassés chacun vraiment, comme pour les remercier d'être, comme pour remercier la vie de lui avoir donné ces trois beaux enfants-là. Et parfois elle se sentait tellement pleine de gratitude qu'elle avait envie de dire merci à cette vie, alors elle se mettait à embrasser tout ce qu'elle voyait. Elle embrassait la table de la cuisine, elle embrassait les meubles, elle embrassait la porte de la maison, et puis le seuil, et puis l'herbe, et puis les arbres, et puis elle envoyait des baisers au vent, au ciel, aux nuages, au soleil, en criant merci, merci, merci. Et ça devenait une danse vertigineuse, merci, merci, merci. Jim s'est retrouvé au bord du lac. Il y avait une barque pleine d'eau, une petite boîte en métal juste à côté. Elle s'est dit, c'est dommage de laisser ça comme ça. Alors elle a ramassé la petite boîte et elle a écopé. Le sol autour de la barque était glissant et Jim a glissé. Elle est tombée, elle s'est cognée contre la barque, assommée. Elle est tombée dans la barque et là, elle a donné juste l'impulsion nécessaire pour permettre à la barque de filer sur les eaux du lac. À son réveil, elle était arrivée de l'autre côté du lac. C'était la nuit, une nuit sans lune. La barque a accosté. Jim a commencé à descendre. C'est alors qu'elle a vu ses mains. Plus de hanches, plus de seins. Un homme. Elle était devenue un homme. Jim est sorti de la barque, il a marché en direction de la taverne. Et puis il est entré. Alors Jim, ben te v'là, est-ce que t'as trouvé quelque chose à nous raconter ? Jim a traversé la taverne. Il s'est assis et il a attendu le silence. Et là, il a raconté toute l'histoire que je viens de raconter. Tonnerre d'applaudissements. On a décidé que c'était la plus belle histoire de la soirée, que décidément Jim n'avait pas son pareil pour régaler le monde de belles histoires. Alors pour fêter ça, on est allé à la cave exhumée de ces bouteilles qui avaient tant été oubliées là qu'elles en étaient devenues bonnes. Et puis on a versé dans les verres et on a partagé le vin. Je sais pas si t'as remarqué ça. Que c'est pas l'âge du vin ou le nom sur l'étiquette qui le fait bon, mais que la plupart du temps, c'est souvent les circonstances et la qualité du partage. Et ce soir-là, de qualité, le partage, n'en manquait pas. Et ensemble, toute la nuit, on a trinqué et on a bu. Bu. Bu à cette vie qui, même si parfois on glisse et on se cogne et on écope les trop-pleins, ben, cette vie-là, elle a pas son pareil pour nous régaler.
Ça part d'abord d'une envie de parler, d'exprimer quelque chose et de le transmettre. Et avec tout d'abord une immense modestie. Se dire, mais de quel droit je vais parler ? Et malgré tout, il y a ce désir immense d'exprimer. Mais à un moment donné, c'est un gros fouillis. Et puis, tout d'un coup, il y a une petite chose qui apparaît, et c'est le petit morceau de fil qu'on va suivre. Voilà.
Il y a ça, et puis écrire un conte, c'est passer par le ciselage des mots, Moi, j'ai un grand amour des mots. J'aime dans les mots aller chercher tout ce qu'ils peuvent dire, tout le non-dit du mot et tout ce qu'il comporte. Et alors, un mot, c'est d'une richesse extraordinaire. Donc, il y a ça. Il y a évidemment la musique des mots. Comment les mots entre eux fabriquent une musique particulière qui elle aussi, va amener du message. Alors, il y a tout ce boulot d'écriture. Puis après... Compter, c'est mettre tout ça dans la bouche et le passer par la bouche et par le corps et par les émotions. Et à partir de là, il y a une troisième écriture qui est l'écriture orale, qui va opérer des coupes là-dedans, trouver la posture la plus juste. Voilà, il y a le travail de la bouche et la bouche écrit aussi. Et la bouche écrit avec des mots et aussi avec des silences. Qui du coup font entrer en jeu le corps, le regard, et c'est infini, c'est palpitant. Et il y a un moment où il y a cette petite étincelle qui fait que tout s'organise, tout se rassemble, et d'un seul coup ça trouve sa cohérence. Et moi dans le travail avec les mots aussi, je trouve ça, des fois je vais partir sur un mot, une formule, et pof, ça s'ouvre comme une fleur, et mon récit se tisse comme ça, ouais. Voilà, dans ce que tu dis, dans le respect de l'histoire, quand c'est un conte ancien, un conte traditionnel, à la fois de se l'approprier, de le faire parler avec la sensibilité qui est la mienne, c'est mon boulot de conteuse, c'est d'ouvrir ce chemin-là de sensibilité, tout en ne me servant pas de ce conte-là pour me mettre en valeur ou lui faire dire quelque chose qu'il n'avait pas envie de dire. Donc c'est une rencontre, c'est comme une relation. On s'ajuste ensemble. C'est-à-dire qu'il y a ce que je veux dire et faire dire. Et la plupart du temps, il y a tout ce que j'ai pas vu qui m'échappe et qui se met à parler quand même. Et c'est ce que je trouve magique, c'est que je peux avoir toutes les intentions que je veux, il y a quelque chose qui se joue là, malgré moi, et c'est là où ça devient intéressant d'ailleurs. C'est quand la porte elle est ouverte à ça. Le conte a des choses à me dire, j'ai des choses à dire avec lui, mais il a aussi des choses à me dire, et ça souvent je le découvre petit à petit. Puis je crois qu'aussi en fonction des moments qu'on traverse, des moments de nos vies, nos regards changent et il y a des dimensions qu'on ne voyait pas dans ce qu'on était en train de... On pensait dire une chose et finalement, on portait plein d'autres choses qu'on ne pouvait pas voir. Voilà, j'ai cette sensation-là.
Eh bien, nous allons partir là-bas, vers la mer de Chine, plus exactement sur une plage, au bord de la mer de Chine. Et là, sur cette plage, il y a une petite maison. Ouf. Nous, on pourrait même dire que c'est presque une cabane, tant elle est faite de briques et de brocs, et qu'on sent bien que les gens qui l'habitent ne sont pas très riches. Et justement, dans cette maison, il y a un homme qui vit là, un père, avec son fils. Ils sont seuls. La mère a disparu un jour. Il élève son fils, lui, pêcheur. Et son fils, il s'appelle Kogi. Et Kogi, il dort. Son père est déjà réveillé, il prépare les filets pour partir à la pêche. Et puis son fils se réveille. « Papa ! Papa ! » « Oui, Kogi ? » ?»« Papa, j'ai fait un rêve. »« Oh, mon fils, raconte-moi ton rêve. »« Non, papa, je ne te raconterai pas mon rêve. »« Allez, fils, s'il te plaît, raconte-moi ton rêve. »« Non, papa, je ne te raconterai pas mon rêve. » Fils, écoute, on est que tous les deux, tout le temps, et j'aime quand tu me racontes tes rêves. Non, papa, je ne te raconterai pas mon rêve. Et là, le père a fait une chose qu'il ne fait jamais. Il s'est mis à hausser le ton.
Il a commencé à parler un peu trop fort. Et puis même, il a presque menacé son fils. Alors Kogi a dit « Non, papa, je ne te raconterai pas mon rêve. Et si tu insistes trop, je pars. » Et le père n'y croyait pas. Alors il a continué d'insister. Mais Kogi a pris son baluchon et il est parti. Et il est parti en direction de la terre. Et a dit au revoir à son père. Son père a beau le rappeler, Kogi est parti. Et en direction de la terre, Kogi a marché longtemps et puis est arrivé la nuit. Et là, il est rentré dans une forêt. Et puis dans cette forêt, il a trouvé une petite maison. Une petite maison de rien du tout, avec un mur en pierre, avec un toit de chaume. Et puis une porte et une seule fenêtre. Et puis Kogi, c'était le début de la nuit, il commençait à avoir faim. Et puis il s'est dit, il faudrait peut-être que je trouve un endroit pour dormir. Alors Kogi s'est approché de la porte. Et au moment où il a voulu frapper à la porte s'est ouverte. Et là, il y avait une de ces vieilles femmes que l'on connaît bien, avec un gros bouton sur le nez, avec des robes par-dessus d'autres robes, avec des mouches qui lui tournaient autour, et qui a dit à Kogi, au moment où il voulait frapper,
« Bonjour Kogi, je savais que tu viendrais. »
Imaginez l'étonnement de Kogi, comment ça ?«
Je savais que tu viendrais, je savais. Viens Kogi, entre, entre. »
Kogi hésitait un peu, malgré la faim et malgré l'envie de dormir dans une maison.
Elle lui a dit « Entre, 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 tu vas me dire pourquoi est-ce que tu es venu ici ?»
Kogi, il ne savait pas trop et puis finalement il s'est décidé. Il a pénétré dans cette maison. Et quand il est arrivé là, c'était ni noir, ni lumineux, il y avait quelques bougies qui traînaient. Puis surtout, il y avait des chats avec des yeux jaunes, il y avait des cornus, des alambics, il y avait des crapauds qui traînaient dans des vases avec des liquides de toutes les couleurs. Et puis, il y avait des marmites qui bouillonnaient. Et là, la vieille dame lui a dit « Alors, Kogi, pourquoi es-tu venu ici ?» Et là, Kogi a raconté qu'il ne voulait pas raconter son rêve à son père et qu'il avait décidé de prendre le chemin.
Ah, eh bien Kogi, tu vas me le raconter à moi, ton rêve.
Et Kogi a dit non. Non, certainement pas, je ne vous raconterai pas mon rêve, madame.
Oh si, Kogi, regarde Kogi, regarde.
Et la vieille dame est allée au fond de sa petite maison. Elle a pris sur une étagère un éventail. Elle l'a montré à Kogi et lui a dit,
regarde Kogi, regarde cet éventail. Si tu l'ouvres et que tu l'agites, tu t'envoles avec. « Eh bien, si tu me racontes ton rêve, je t'offre cet éventail. »
Kogi a regardé l'éventail, a regardé la vieille dame. Il a dit « D'accord, donnez-moi l'éventail. » Alors, elle lui a donné l'éventail. Et Kogi, il a ouvert l'éventail, il a agité l'éventail et il s'est envolé. La vieille dame a hurlé. Mais Kogi, lui, volait. Et il a volé comme ça, toute la nuit. Avec son éventail. C'était merveilleux. Il voyait les étoiles, il était près des étoiles, mais il voyait la forêt, il voyait les rivières. Et puis, le jour s'est levé, et Kogi a décidé d'aller du côté de la mer, voir s'il ne voyait pas son père sur la mer. Mais maintenant qu'il était là au-dessus de la mer, il commençait à fatiguer. Alors Kogi a voulu se poser, et là, il a trouvé une île. Alors il descend sur cette île, il se pose. Mais quand il est sur cette île, elle bouge. Et puis là, au bout de cette île, il y a un jet d'eau qui sort. Et puis maintenant, l'île bouge encore plus. Kogi a du mal à se maintenir dessus. Et là, il y a une grande gueule qui s'ouvre et qui dit
« Hé, qu'est-ce que tu fais sur mon dos, toi ?»
Et là, Kogi dit « Je suis là parce que… » Et Kogi explique tout ce qu'il a fait. Tout ce qu'il a fait pour arriver jusqu'ici. Et là, la grande personne qui est là sous les pieds de Kogi se retourne et lui dit « Eh bien, et à moi, la baleine, tu me raconterais ton rêve, Kogi ?»« Non, je ne vous raconterai pas mon rêve, pas à vous non plus. »
dit Kogi. Regarde, regarde vers ma queue. Regarde, il y a une aiguille en or et une aiguille en argent. Regarde. Kogi s'est retourné. Il a vu effectivement, vous savez, de ces grandes aiguilles à chapeau. Eh bien, il y en avait une en or et une en argent. Et la baleine a continué. Eh bien, tu vois, l'une de ces aiguilles permet de guérir les malades. L'autre aiguille permet de revenir des morts. Eh bien, je te les offre si tu me racontes ton rêve. Et Kogi, il s'est approché des aiguilles. Il a regardé la baleine. Il a dit « D'accord, je les prends ». Mais au même moment où il a pris les deux aiguilles, il a agité son éventail et s'est envolé. La baleine a beau crier, tout ce qu'elle pouvait crier, Kogi a continué son voyage. Et maintenant, Kogi est reparti du côté de la terre. Et alors qu'il a passé les forêts, alors qu'il a passé des champs, des chemins, il arrive au-dessus d'une ville. Et observant un peu mieux cette ville, il voit que tous les gens de cette ville pleurent. Et qu'ils sont là, effondrés devant leur maison, effondrés sur les chemins, et ils pleurent. Alors Kogi, curieux, descend. Et il s'approche d'un homme et lui pose la question. « Mais pourquoi est-ce que vous pleurez? Pourquoi est-ce que tout le monde pleure dans votre ville ?»« Oh, mon pauvre garçon, tu ne sais donc pas. Notre roi, sa fille, la princesse, elle est très très malade. Elle est en train de mourir. Alors, nous allons perdre notre princesse. Tu ne connais pas, tu ne connais pas notre princesse ?» Kogi dit non. Mais Kogi tout de suite pose la question. « Où se trouve le palais du roi ?»« Mais là-haut, mon garçon, là-haut, tout en haut de la ville. » Alors, Kogi a dit merci. Et Kogi est parti en direction du palais. Arrivé au pied du palais, il y avait les gardes, mais les gardes pleuraient aussi. Et Kogi leur a demandé où est-ce qu'ils pouvaient trouver le roi. Alors, on lui a indiqué le chemin de la grande salle du palais, la grande salle du trône. Et on lui a dit de faire bien attention, car le roi pleurait sur son trône. Kogi s'est approché du roi dans la grande salle du palais. Le roi était effectivement sur son trône et il pleurait. Et Kogi s'est approché et lui a dit « Monseigneur, Monseigneur !» Alors le roi a levé un peu la tête, il a regardé Kogi et Kogi lui a dit « Monseigneur, est-ce que je pourrais voir votre fille, s'il vous plaît ?» Et là, le roi lui a dit « mon garçon, tu ne vois pas que je suis dans une grande douleur. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Monseigneur, je veux voir votre fille parce que je peux la guérir. » Et là, le roi, malgré sa grande faiblesse, s'est tourné vers Kogi et lui a dit « Mon garçon, tous les docteurs du pays sont venus voir ma fille. Aucun ne peut la soigner. Alors, toi, tu pourrais la soigner, s'il te plaît. » « Laisse-moi en paix. Attends. » Et Kogi a insisté. Il a dit « Je veux la voir. Je peux la guérir. » Et le roi, il était comme un père, comme une mère qui sont au désespoir de voir leur enfant malade. Alors le roi, il s'est dit « Pourquoi pas ?» Et il a emmené Kogi dans la chambre de la princesse. Elle était là, sur un lit, un merveilleux lit, comme Kogi n'en avait jamais vu. Mais elle était blanche, blanche comme les draps. Et là, au moment où ils sont arrivés, elle a fermé les yeux. Elle venait de mourir. Alors le roi s'est effondré sur le lit de sa fille. Et Kogi, lui, s'est approché du visage de la jeune princesse. Et puis, il a posé l'aiguille d'argent sur le visage de la princesse. Et là, elle a repris des couleurs. Un peu de rose sur ses joues. Et puis, on a vu ses paupières s'ouvrir. Et puis, une lumière dans ses yeux. Et puis, Kogi a posé l'aiguille d'or. Et là, elle s'est assise sur le lit. Elle était revenue des morts. Et le roi a senti le lit bouger. Et il a vu sa fille. Il a vu sa fille ressuscitée. Il a regardé Kogi et il s'est allé à sa fenêtre et il a dit « ma fille est vivante, qu'on organise la plus grande défaite qui soit, ma fille est vivante, ma fille !» Et ils ont organisé la plus grande défaite qui soit. Je vous laisse imaginer une fête comme ni les uns ni les autres, nous ne pouvons imaginer avec
tout ce qu'il faut pour rire, pour danser, pour chanter et pour bien manger. Et ils étaient là depuis de nombreuses heures à cette fête. Et il y avait le roi qui était assis, bien entendu, au bout de la grande table. Et à côté de lui, il y avait Kogi. Et de l'autre côté, il y avait sa fille, la princesse. Et le roi s'est tourné vers Kogi, il lui a dit, mais dis donc, Kogi, je ne sais même pas, qu'est-ce qui t'a amené ici? Et là, Kogi lui a raconté pourquoi est-ce qu'il était venu jusqu'ici et comment. Et alors le roi a regardé Kogi, il lui a dit, mais Kogi, est-ce que tu pourrais me le raconter à moi, ton rêve? Et Kogi a dit, non, je ne vous raconterai pas mon rêve. Alors le roi a insisté, il a dit, Kogi, s'il te plaît, s'il te plaît, Kogi, au moins, raconte-moi la fin de ton rêve. Kogi s'est tourné vers le roi. Il lui a dit, la fin de mon rêve, c'est le moment où vous, roi, vous m'offrez la main de votre fille. Et voilà, Kogi a épousé la princesse. Et Kogi et la princesse ont été un couple merveilleux. Et on raconte qu'ils ont construit un palais au bord de la mer et que son père écoute toujours les rêves de son fils.
Éclater le micro, quoi.
Une fois, il y a un petit garçon qui est venu me voir. Je devais aller raconter dans une école. Et il est venu me voir. Juste avant que je démarre, on leur avait dit, il y a la conteuse qui va venir. Et le petit garçon est venu vers moi et m'a dit, et alors tu vas compter jusqu'à combien?
Et moi, j'en ai une autre anecdote. j'ai raconté dans un quartier difficile de Marseille. Et c'était des enfants de ce quartier difficile et qui n'avaient jamais entendu de conteur. Et donc, c'était dans le cadre de la médiathèque. Et faut imaginer qu'il y avait une salle avec une espèce de dôme en plexiglas. Et ça résonnait beaucoup là-dedans. Et puis, il y a les enfants qui sont assis. Et puis, je commence, comme d'habitude, comme j'introduis les histoires. Et puis, je leur dis, allez, on y va. Et à ce moment-là, je fais un tour sur moi-même et... Au moment où je reviens, face à eux, ils étaient tous levés en train de partir. Les enfants, ils étaient déjà... avec moi. Allez, on y va, on se lève et on sort. Voilà, c'est ça les histoires. C'est ça, emmener les gens sur un chemin. J'avais trouvé ça génial. À un moment donné,
quand je dois raconter une histoire ou réécrire une histoire, il faut que je laisse partir ma sensibilité artistique. Il faut qu'elle... Voilà. C'est ce qui fait que dans la vie, et comme quand je suis metteur en scène, par exemple, où je ne me décris pas comme un... définis pas comme un metteur en scène. Je préfère dire que je suis un accompagnateur d'acteurs, parce qu'à un moment donné, il y a des choses que je ne pourrais pas analyser tout de suite, expliquer tout de suite, mais je les sens et je les fais apparaître. Et c'est la première des choses dans la réécriture ou le re-racontage, si je peux me permettre ce mot d'un conte. C'est d'abord avoir confiance en tout ce que l'on a pu emmagasiner, tout ce qui va pouvoir nous arriver, y compris le regard et l'attention du public, pour qu'on exprime des choses nouvelles à partir d'une histoire. Voilà. Et c'est ce qui fait la richesse, c'est d'être toujours à l'écoute en même temps que l'on offre quelque chose qui est notre socle. Mmh. Voilà. Et c'est ce qui est fabuleux dans les histoires. Et c'est pour ça qu'on encourage tous les conteurs, encouragent les gens à raconter les histoires qu'ils viennent de raconter. Parce qu'on sait très bien qu'il y a des choses que nous, on n'a pas perçues, mais qu'eux ont perçues, ce public a perçu d'une certaine façon, et qu'il va retransmettre d'une autre façon, et ainsi de suite, ainsi de suite. C'est ce qui est beau dans l'histoire. Mmh. Dans les histoires.
Ça raconte énormément de choses. C'est très difficile parce qu'il y a énormément de choses qui passent dans ce conte qui sont de l'ordre de l'indicible. Et il y a aussi beaucoup de choses que là, je n'ai pas pu donner au micro que je donne quand je la raconte avec le corps, avec le regard. Pour moi, il parle quand même de la rencontre avec sa part masculine, la part masculine en soi, avec des parts de soi, en tout cas des dimensions de soi. Voilà, moi il me touche à cet endroit-là, mais en même temps, depuis le temps que je le raconte, j'y vois plein d'autres choses. au départ, en tout cas, quand j'ai choisi de le raconter, c'était ça. C'était vraiment la rencontre avec plein de dimensions de soi.
Et voilà, j'avais envie de raconter une histoire qui se passe au bord de la mer. Donc, comme d'habitude, j'ai pris des livres et j'ai cherché des histoires. Et puis, et là j'en suis maintenant de plus en plus certain, c'était bien ça, c'était bien ce moment-là. Et donc l'idée, c'était par rapport à cette histoire, de lier à la fois la mer et puis cette notion que même si ces enfants de quartiers difficiles et avec des vécus difficiles, on pouvait toujours essayer de croire en son rêve, en ses rêves. Et puis de faire en sorte que ces rêves deviennent réalité et que la réalité devienne un rêve. Voilà. Et voilà. Et puis c'est une histoire aussi que j'aime bien parce que tout le monde se doute de tout ce qui se passe. Tout le monde se doute de ce que Guy va faire avec son éventail, avec l'aiguille. Voilà. Et on se doute qu'à la fin. Mais justement, j'aime bien emmener les gens sur quelque chose de très confortable et qui justement correspond au rêve, au petit clin d'œil, tu vois, au petit sourire qu'on a au coin des lèvres, voilà.
Est-ce que les bons contes font les bons amis? C'est marrant, c'est une blague que je partage avec un ami conteur, ça. On se la fait régulièrement. Voilà. Oui, alors celui-là, c'est un bon ami et je l'ai rencontré parce qu'on est conteurs tous les deux. Voilà. Donc oui, les bons contes font les bons amis. Il y a eu au moins cette rencontre-là. C'est un conteur qui s'appelle Patrick Rochdy qui est un ami de cœur. Voilà. On s'aime tous les deux et c'est vraiment à travers le fait de raconter l'un et l'autre qu'on s'est rencontrés et qu'on a Voilà, on a vécu ensemble une soirée qui ressemble à ce que j'ai raconté tout à l'heure. Un de ces moments où on pose nos fesses, on se connaissait pas bien juste avant, et puis on se met à parler, on a l'impression qu'on se connaît depuis tout le temps, et qu'il y a une espèce de je sais pas quoi, de truc qui est ouvert dans le cœur, qui fait qu'on se comprend, et on s'écoute, et on grandit ensemble en discutant, et voilà. Donc les bons comptes, oui, font au moins ce bon ami-là. Voilà.
Moi, j'ai envie de faire un pied de nez pour répondre à ça. Est-ce que les bons amis font des bons comptes? Justement, le compte, c'est avant toute chose, le compte, les histoires, c'est un objet de rencontre. Et Virginie va se représenter, parce qu'il faut quand même le dire, c'est quand même elle qui se représente, malgré tout ce qu'elle a dit tout à l'heure, au théâtre de Die. Et en fait, là, pour une fois, c'est pas moi qui ai choisi la programmation. C'est plutôt Isabelle, Harold, de l'équipe du théâtre, qui m'ont proposé de travailler avec Virginie. Et ce qui est extraordinaire, c'est que, avec tous les habitués du lieu du conte du coq, il y en a beaucoup qui m'ont dit « on la connaît ». Et elle est comme ça. Et elle est comme ci aussi. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'on avait des chemins de rencontre, et ben voilà, ça se réalise. Et moi, j'ai envie d'inviter beaucoup de gens à rencontrer cette belle personne, en premier lieu. Et j'en suis sûr, cette belle conteuse. Voilà.
Merci beaucoup à tous les deux d'être venus officialiser votre rencontre récente, d'être venus nous faire partager votre travail d'écriture, votre univers de contes et de nous avoir conté un petit bout de votre univers. Donc rendez-vous est pris pour la représentation de Rouge Mémère. On pourra vous retrouver là-bas certainement après la représentation. Au Théâtre de Die, jeudi 20 à 20h. Vous pourrez retrouver cette émission en podcast sur le site www.rdwa.fr dans la rubrique émissions, thématiques, histoires et contes. À très bientôt pour une nouvelle édition d'Histoires et de Contes. Merci.